Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shakeology, podcast dédié au surf, aux planches et surtout aux shapers. Aujourd'hui, nous sommes avec Didier Damestoy, qui shape sous le nom de Toy Surfboard à Lacano en Gironde. Nous parlerons de son histoire, de son apprentissage du shape, de sa méthode et bien sûr de ses planches. Si vous n'êtes pas familier avec le shape, je vous invite à vous rendre sur notre site shapeology.fr où vous trouverez un lexique qui devrait vous aider à comprendre le vocabulaire utilisé. Vous y retrouverez aussi l'ensemble de nos épisodes et reportages, un annuaire des shapers français et plein d'autres contenus à venir. Vous pouvez également suivre le compte Instagram shape.ology pour découvrir le reportage photo de l'épisode et pour être au courant des prochaines sorties. Mais pour le moment, place à Didier Damestoy.
À Lacano, au UGA, à l'atelier de Lacano Surf Design avec Nico. Et donc voilà, il me glace les planches, donc ça c'est super. C'est un très bon glaceur, en plus c'est un bon shaper, je lui apprends ce qu'il faut. Et c'est l'un des meilleurs glaceurs qu'on ait en France. Ça c'est un travail super bon. Puis on arrive à faire à s'entendre sur une bonne qualité de planche. Et puis on expose aussi à Patagonia, la Lacano Surf Design, le shop à UGA. Ça c'est sympa.
Je suis né sur Bordeaux et après j'ai été enfant, je me suis retrouvé au Taillon-Médoc, en lisière de forêt, où j'ai passé une enfance assez heureuse, tranquille, sans problème. À faire du vélo, à jouer, voilà, et une zone assez privilégiée, quoi, je veux dire, petite classe moyenne, quoi. Tranquille, pépère, avec un papa qui travaillait dans l'aéronautique, comme ce que j'ai fait plus tard. Et puisqu'il m'a dit d'aller passer des essais un peu plus tard, quand j'avais mes diplômes, de partir faire des essais. Donc je me suis retrouvé dans le monde aéronautique.
Tes diplômes, c'était de l'aéronautique ou...
Non, c'est diplôme en mécanique. Et après, j'ai été formé au sein de l'entreprise avec des spécificités aéronautiques qui ont duré un peu plus de 2 ans au départ. Après, j'ai commencé à rentrer doucement en production. On a construit un avion, d'ailleurs, c'était super sympa, de A à Z, sauf la bulle du cockpit et l'hélice. Le reste, on l'a fait. J'ai été confronté à plein de métiers. Donc j'ai fait du fraisage, de l'alésage, de la rectification, de l'ajustage sur l'avion, l'ajustage en dehors d'avion. J'ai fait du câblage, de l'avionique, de l'hydraulique, de la mécanique, du commercial, du bureau d'études, du bureau technique, du planning, j'ai fait de tout. De la line, du dépannage.
C'est pas une mauvaise formation au final.
Ah non, je faisais tout, dépannage, tout. Ouais, j'ai eu des formations aussi en composite. J'ai eu des formations en plein de choses. C'est-à-dire, en aéronautique, t'as des modules, quoi.
Ouais, ok.
T'as des modules sur différents trucs et tu dois valider des modules, quoi. Voilà, c'est des examens où tu dois faire 75% de réussite.
Au final. Ça a dû t'apporter beaucoup pour le shape par la suite, quoi.
Oui, bien sûr. Entre temps, je suis passé par des pas mal de sports, du rugby, un peu de foot, du judo, des sports de combat, de la moto, du vélo cross, de la mobilette cross, de la motocross. Alors j'ai fait aussi du skate quand j'étais gamin, puisque je me suis retrouvé j'avais 12 ans. Je commençais à skater en 74 et en 76 j'ai commencé à faire un peu de rampe, enfin de ce qu'on appelait des petites rampes, des banks, on appelait ça au début. Après on connaît les gens qui surfent, qui font du surf, qui faisaient du skate, donc j'ai naturellement glissé sur le surf. Enfin, j'avais un copain à 14 ans qui voulait m'amener, avec qui je faisais de la moto, un Américain. Et moi, je préfère aller faire de la moto et du skate. Et puis après, à 18 ans, j'ai découvert le surf, alors que Oliver m'a proposé plein de fois d'aller faire du skate, d'aller faire du surf avec lui, quoi. Il avait notamment des Lightning Bolt, shapés par Jerry Lopez, c'est un Américain, hein.
T'as découvert le shape dans la foulée ou pas du tout?
Alors plus tard, ouais, c'est... Alors déjà, je savais choisir les planches. Au fur et à mesure que je surfais, je comprenais de mieux en mieux comment surfer les planches et comment ça marchait. Je regardais ça parce que j'avais une formation aéronautique où on m'a appris à calculer les portances, à les traîner, d'abord à savoir tracer comment c'est fait les cours, et après, voilà, on m'a éduqué sur la mécanique des fluides. Et donc j'avais une idée, mais je ne l'appliquais pas. C'était au début d'une façon intuitive, je ressentais les choses, je les comprenais. Ouais, je regardais, puis je comprenais, puis très vite j'ai su choisir les planches. Et je m'étais mis à choisir les planches de mes copains qui me demandaient qu'est-ce que t'en penses de ça, parce que je savais choisir les planches pour les uns et les autres. Voilà, on va dire en 3-4 ans, j'ai vite fait le tour pour comprendre comment ça marchait. Puis un jour, on avait au Lacano Surf Club, on avait des gamins d'une famille qui n'avait pas d'argent, qui était en galère, mais c'est des bons surfeurs. Et donc, par personne interposée, j'ai été mis en contact à Pauillac avec des gens qui faisaient Opa Surf. Et en les voyant, en discutant avec eux, j'ai amené des planches, j'ai vu ce qu'ils faisaient. Donc je suis revenu avec deux planches à moi. Et on a pris des côtes, on a regardé, on a fait une analyse. Donc du coup, j'ai découvert un peu comment ils faisaient pour prendre des côtes aussi, avec les templates, tous les points de repère qu'ils prenaient. Bon là, ils avaient fait simple, ils avaient fait tous les 10 cm. Et ils ont pris des gabarits, ils ont refait des gabarits de templates, des gabarits de rails à 3 endroits différents, et plus template de rocker dessus et template de rocker de dessous. Voilà, comme ça on ne se trompait pas. Plus on a recopié le tail et le nose, on a créé un template, donc j'ai vu faire pour prendre un template. Donc avec une sorte de trusquinage, quoi, on appelle ça faire du trusquinage. Et on en a fait la planche en modifiant un peu, j'ai mis mon grain de sel sur la planche. C'est-à-dire j'ai défini ce qu'il fallait faire en fin de compte. Et le shaper l'a fait. C'était Eric Eribiri, il s'appelait. Et donc il s'appelle toujours d'ailleurs. Mais donc on est parti. Moi après je suis parti en voyage. Et puis en voyage, j'ai pété mes planches, sauf une, que j'ai fini de péter ici en rentrant de voyage. Donc je vais les voir, je lui dis, vous avez toutes les côtes, vous pouvez me la refaire. Et je vous paye au fin août. Ils me disent, ben non. J'ai dit, pourquoi non? Parce que c'est toi qui vas la faire. Et nous, on va la glacer. Ça va te coûter zéro. Mais on va voir ce que tu es capable de faire. Parce que tu as supposé une critique, comme il a dit, positive. Mais on voudrait savoir si tu es capable de le faire. Moi, j'ai dit, oh, ben non, moi, je sais pas. Je sais pas le faire. Et j'étais là, mais il me dit, t'as pas le choix. Il me dit, ça va te coûter que dalle. Tu fais. Et puis j'ai fait la planche. Et puis en fin de compte, je suis passé 8 heures pour la faire. Un tout petit peu moins, 7h30 pour la chaper. Et après, ils me l'ont glacé. Après, le lendemain, j'ai glacé avec eux. Enfin, ils m'ont fait des toiles. On a fini par aller aux côtes le troisième jour. Et quatrième, ils ont poncé la planche. Mais la planche était pas mal. Sauf que je trouvais que le tail était trop épais. Parce que moi, j'avais chépé la planche comme je la voyais finie. Il y avait des choses que j'ai prises, mais je la voyais comme finie. Et donc le nose, le toy, il y avait le tail, le nose était un petit peu trop épais, quoi, parce que j'ai été la prochaine il faudra enlever, puis il faudra enlever un petit peu au rail, tout. Donc j'avais pris des côtes justement, et puis avec les côtes que j'avais prises, et bien j'avais vu les différences que ça avait donné en épaisseur sur les rails, sur le dessus de la planche, et puis alors là où tu rabats les tissus les uns sur les autres au tail avec des. Et là par contre ça avait pris beaucoup trop, parce qu'en plus c'est les endroits qui sont fins, donc là tu prends beaucoup et tu dis ah merde, il faut vraiment enlever là. Après ben, j'en ai fait une autre à Pont-l'Abbé. C'était Peter McCallum qui faisait les planches. C'était un Néo-Zélandais qui était marié, je crois, avec une Anglaise et qui vivait en Angleterre, qui vivait en Bretagne. Et on était chez Bruno Troidec Et mais quand j'ai rencontré le rep, qui était un copain d'un copain, j'ai dit, ah ben tiens, moi j'ai fait une planche. Puis il a regardé, il m'a dit, ouais, putain, pas mal, bien, faut que tu rencontres. Et puis donc un jour, je suis monté en Bretagne, il m'a fait monter en Bretagne, j'ai été chépé là-bas. Il m'a dit, il faut que tu rencontres Peter McCallum, il va te montrer des trucs, il est sympa. Puis il a montré ma planche et l'autre, il me dit, bah, il voudrait apprendre. Et je suis regardé, puis j'ai chupé une planche. Après, le glaceur me l'a glacé et j'ai essayé de me la poncer. C'était un peu moyen, j'ai un peu merdé, quoi. Donc, le glaceur m'a fait des réparations et a fini de me la poncer parce que là, au ponçage, j'ai touché un peu les tissus, quoi. Pas évident, c'est pas évident qu'on ne connaît pas. Donc bon, il rigolait, il savait que j'allais faire des merdes, hein, mais il était là, il me dit, ben, j'avais bien sympathisé avec le glaceur, donc voilà. Et le ponceur, c'était le boss, Bruno Troidec. Elle m'est pas revenue cher la planche parce que j'avais récupéré un pain de mousse que Peter McCallum a commencé à travailler, il a jeté le pain de mousse, il a dit, il est pas bon le pain de mousse, je dis, ben moi je le prends, il va être bon pour moi.
Mais t'as pas coûté cher.
Non.
C'était quoi comme planche?
C'était une 6-2 et qui était sympa.
Parce qu'on était en quelle année là à peu près? C'était déjà les Twins, les Thrusters.
Thrusters, on était.
C'était déjà en
Thrusters.
Ouais,
Thrusters, c'était. C'était l'avènement du Thruster.
Ouais, ouais.
Donc le shortboard, l'avènement du Thruster. Moi en plus, j'ai été l'un des premiers à avoir compris en regardant les planches que les planches qui étaient rocker devant, tendues derrière, c'était complètement obsolète. Ça a marché avec les planches, tu vois. T'arrivais des singles, des trucs, tu vois. Après, ils avaient fait des gros thrusters comme ça. Et après, les planches, elles commençaient à perdre du volume. Et moi, j'avais vu, quand j'avais acheté ma planche, et j'avais vu, c'était une HB que j'aimais beaucoup. Et cette HB, c'était une HB shapée par Ian Buchanan. Il s'appelait Ratso, un Néo-Zélandais aussi. Et cette planche avait une particularité, c'est qu'elle était en banane. C'est une des premières fois que je voyais une planche en banane. On voyait des planches avec du rocker dès le début. On voyait du rocker devant et de la tension derrière. Il y avait des mouvements derrière de rocker, mais qui étaient plus faibles. Et là, on avait une planche qui avait un peu moins de rocker devant et un peu plus derrière que les autres, avec un peu plus de mouvement. Quand on part du milieu, on va vers l'arrière. Il y avait un peu plus de mouvement entre les appuis. Et puis, et on était sur une planche qui n'était pas en concave, mais qui était flat à l'avant, avec juste un petit V derrière, et derrière la dérive arrière, on avait une accélération de la courbure qui récupérait le V qui était posé, et ça faisait un petit appui talon, et j'avais bien saisi le truc.
On ne faisait pas trop de concave encore à ce moment-là, ou c'est toi qui n'avais pas envie
Si, ça existait déjà, mais c'était assez rare, les planches étaient plutôt épaisses et en V. Parce que quand tu mets des planches épaisses avec du concave, il faut les mettre dans l'eau. Mais celle-là, c'est une des premières. Donc déjà, on avait surtout des planches en V ou des fois des doubles concaves. Et celle-là, elle était un léger double concave derrière, mais en V. Et avec un flat devant. Et ça donnait un mouvement à la planche qui était assez sympa. Et moi, je la regardais. J'ai dit, putain, quand j'ai vu cette planche-là, il la vendait, Ratso. J'ai fait, putain, mais cette planche... Je visionnais, je vois la planche en banane qui n'avait pas de volume et tout le monde rigolait parce que Ratso c'était une plume. C'était un poids coq, quoi. Moi j'étais un poids Walter, lui, et c'était un poids coq. Donc c'est pas la même catégorie. Tu vois, et là l'autre je le regardais et je voyais que la planche, je voyais la rondeur de la vague qui creuse et j'imaginais déjà dedans la vague qui épousait la forme. Au lieu de s'ancrer le tail dans l'eau, je sentais qu'il épousait mieux la forme de la vague et qu'il y avait qu'à un moment donné, il y avait, même s'il y avait une rame à plat qui était moins bonne, mais quand la vague allait lever, j'avais compris que la planche allait démarrer, qu'elle allait se mettre en osmose avec la vague. Tu vois, moins de rocker devant, plus derrière. J'étais là, ah, putain, ça va le faire, ça. Et effectivement... Dès qu'on engageait dans la vague, whack, elle partait plus facilement. Elle était plus difficile sur les vagues molles pour démarrer. Mais par contre, dès qu'on avait un peu le creux...
Bien au pic, quoi.
Dès qu'on rentrait dans le creux, pam, elle y allait super bien. Et j'avais une bonne bascule. Alors évidemment, tout le monde rigolait parce que quand je m'assieds sur la planche, j'avais de l'eau ici. Entre 15 et 20 cm de différence... de flottaison quand je m'assieds sur la planche, ce qui était énorme. Et par contre, j'avais ce mouvement qui était up-down, où tu pouvais suspendre le corps dans la vague, la buste, et tu déployais les jambes, tu remontais les jambes, tu déployais les jambes, et la planche, elle accélérait super bien. Elle avait un flow qui était intéressant. Quoi.
C'était assez précurseur des planches qu'on suivit dans les années 90.
C'est ce qui a suivi quelques années après. Deux, trois ans après, on commençait à avoir de plus en plus de planches comme ça, et puis, 5-6 ans après, il n'y avait plus que des boards comme ça. Quand on arrive sur la fin des années 90, c'était des planches bananées. Et avec des rockers médians qui étaient quasiment équilibrés devant-derrière. Alors qu'avant, tu avais deux fois plus de rockers devant et deux fois moins derrière. Quoi. Sur le cul, c'était une tension énorme. D'ailleurs, c'est la différence entre dans les époques, on avait des singles qui marchaient, des singles qui marchaient pas. Les singles qui marchaient bien, c'est ceux qui avaient du mouvement sur le tail. C'est ceux qui avaient une certaine souplesse. Mais si on mettait trop, ils poussaient de l'eau. Par contre, si c'était plat, tu avais toujours la vitesse.
Ouais.
Tu vois, ça démarrait, parce que c'était des planches assez grandes, assez épaisses, avec beaucoup de volume devant. Tu démarrais bien, t'avançais, t'avais une accroche et une ligne tendue dans la vague. Par contre, quand tu voulais faire un cutback, c'était compliqué. Et quand tu voulais virer, faire un carve dans la vague, c'était compliqué. Donc tu faisais des stalls. Et celles qui étaient bonnes, c'est celles qui avaient à peu près les mêmes dimensions, sauf qu'il y avait des équilibrages de courbure. Tu avais un peu plus de mouvement sur les tails, ce qui te permettait d'avoir un surf plus souple. Et après aussi, il y en avait qui en mettaient trop, donc là, ça n'allait pas du tout. Et oui, ça a évolué. T'sais, on a vu des années du single, on est passé au twin fin. On est passé directement dans le thruster. Thruster, on s'est retrouvé avec des planches qui ont évolué hyper vite, en fin de compte. Puis maintenant, on revient sur des anciens concepts, mais on les améliore. En tenant compte de la glisse, du mouvement, du rebond de la vague, pour pas avoir un os de sèche. C'est intéressant. Quoi. Puis à un moment donné, on a eu des mecs qui sont arrivés, jeunes, comme Kelly Slater, qui surfaient des planches hyper étroites.
Ouais.
Mais les mecs, ils arrivaient de jeunes, ils ont surfé des planches, ils avaient ce rebond, ce surf tout en extension très rapide en mouvement. Mais Slater aussi a été le premier à raccourcir les planches, à les élargir aussi, à l'aiglage.
Toujours un peu en avance.
Mais d'abord, il est arrivé à un très haut niveau jeune. Donc un jeune, si tu lui sors d'une planche qui est étroite avec du mouvement, et si tu lui mets une planche raide qui demande beaucoup d'indépendance de jambes, ça le fait pas. Si tu fais une planche plus monocourbe, plus tu tends vers une monocourbe, à ce moment-là, tu travailles avec moins d'indépendance de jambes. Tu travailles sur les deux pieds en même temps. Donc ça, les gamins, ils aiment. Parce que les gamins, ils n'ont pas le 80-20 en indépendance de jambes. S'ils arrivent à avoir un 60-40, c'est un maximum, tu vois. C'est un coup, on appuie 60% à l'avant et après, on passe 60% à l'arrière avec 40% à l'avant. Bon, ça va bien parce qu'il est léger. Donc, il va développer une puissance avec les deux pieds. Donc, il pousse à peu près de la même façon, quoi. Donc, si tu veux faire bien surfer un gamin, il ne faut pas que ce soit trop large devant la planche. Il faut que le tail ait du mouvement aussi derrière, sur la outline. Et puis, il faut lui caler une monocourbe. C'est une monocourbe. Mais, en gros, toujours quand même quelque chose de très, très lié. Donc, ils ont des planches qui étaient assez étroites, avec du mouvement. Et ils avaient un rebond rapide dans la vague. Une compression-extension, ils alternaient des compressions-extensions sur deux jambes et ils prenaient de la vitesse comme ça. Ce qui est très bon, en fin de compte, puisqu'en fin de compte, ça développe un surf assez intense. Et ils sont obligés, les gamins, parce qu'ils ne peuvent pas faire « je mets tout comme ça devant et tout derrière ». Non, parce qu'ils n'ont, c'est du veau, c'est pas encore du taureau. Quoi. Donc, ils travaillent avec les deux jambes en même temps. Il pousse vers le haut, deux jambes en même temps. C'est difficile d'y arriver un gamin, tu relâches le pied avant, tu pousses avec le pied arrière, tu élèves tes hanches et tu projettes ton buste vers le haut, vers l'avant. C'est pas du tout évident. Donc le fait de travailler avec deux pieds à la fois, c'est plus simple. Et ils ont pris cette habitude-là. Et en fin de compte, les bons surfeurs, et puis ça le fait bien. Quoi. Tous les pros travaillent avec les deux appuis en même temps. Quoi. Alors par contre, quand ils mettent un snap, qu'il faut mettre que le pied arrière, ils vont le faire. Mais si on regarde John Florence, ben, il travaille avec les deux appuis en même temps dans le snap. Hein. Mais à faire, il faut être puissant et être bien engagé, parce que si tu relâches le pied avant, que tu mets que le pied arrière, ça tourne plus court. Et si tu veux faire un gros carve, mais tu fais un gros carve avec les deux pieds, quoi. Bah, tu utilises 2,50 m d'arc, ça donne un surf puissant. John Florence, et ben c'est pareil, hein, lui, il a surfé avec les deux pieds depuis qu'il est tout petit. Hein. Il a gardé.
Je reviens un peu en arrière, du coup. Bon, là, tu as fait quelques planches, tu as continué comme ça longtemps, ou un jour tu t'es dit j'arrête tout et je fais que ça?
Je me suis fait quelques planches, j'ai été faire une planche chez Baptiste.
Baptiste
Dupuy, okay. Qui était un très bon shaper qui a arrêté, qui doit être vieux maintenant. Voilà, qui avait une bonne vision du surf, de beaucoup de choses, qui a été l'un des co-entraîneurs d'équipe de France. Oui, après j'ai fait la cinquième planche, je l'ai faite en Australie, quoi.
Après j'ai fait cette cinquième. Là, du coup, tu faisais ça en France, en gros à côté de ton boulot, quoi.
Les quatre premières planches, je les ai faites en France.
Loisir entre guillemets.
Ah
quoi,
oui, complètement.
Toi, voilà.
Donc en gros, je faisais une planche par an. Quoi.
Ok, et là tu pars en Australie.
Et je pars en Australie, et là, donc je pars en Australie en 87. Ben là, je me suis mis HP, je suis arrivé sans planche, donc ben, je me suis mis HP, et puis partout où j'allais, ben, j'avais le logo de l'atelier partout où j'allais.
Et ils te laissaient venir et tout.
Ah ouais, je chépais.
Tu bossais pour eux ou...
Non, pour moi.
Ok, ouais,
c'était pas... Je vais me faire une planche, et peut-être que je savais bien argumenter, ou j'avais une tête, une aura, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais pu faire ça.
Ils t'ont tous accueilli, quoi.
Ben ouais, moi j'ai été chounard, quoi, je crois. Je dois avoir la bonne tête, je devais bien demander les choses, parce que même pour aller faire une planche chez Baptiste, à l'époque personne n'avait fait ça, quoi.
Ouais,
donc quelque part j'étais assez chounard, quoi. Je prenais les informations comme je pouvais, mais ils n'en donnaient pas beaucoup, les mecs, mais puis sauf quand ma septième et ma huitième planche, là c'est avec Jeff McCoy qui lui carrément m'a carrément invité à aller dans le shipping room à côté de lui, et puis au bout d'un jour il a dit le shipping room il est nul le deuxième jour, et il a arrêté de shipper pour me faire finir mes deux planches où lui il travaillait plus, et il me coachait dans le truc. Il me disait tail, nose, nose, tail, tail, nose, smooth line, always smooth line.
Donc ça m'a poussé. Que quelques jours comme ça?
Non, je suis resté 5 mois et demi en Australie.
Non, mais avec Jeff McCoy.
Une petite semaine à Byron Bay.
Ok.
Au début, je chépais à l'œil, à peu près. Je bidouillais bien. Et puis un jour, j'ai vu que j'avais un... Je m'étais gouffré un peu sur un rocker de planche à l'avant. Pas mis assez. Et là, je me suis dit, mais c'est pas une planche que je maîtrisais vraiment. C'était un semi-gun. Et là, j'ai dit, bon, ben là... Je vais acheter une règle et puis je vais tout commencer à tout monter. Donc j'ai été me chercher une règle de maçon que j'ai partagée en deux, que j'aurais déligné. Alors je l'ai mis à la fraiseuse et j'ai rectifié le champ et je fais ça comme il faut. La règle a été bien. J'ai bien réfléchi le truc pour pas que le milieu, pour avec une coupe droite au milieu, j'ai coupé en tiers la règle. En trois fois, je l'ai fait avec le milieu bien pas touché pour avoir de bon équilibrage. J'ai équilibré la règle. J'ai tracé ma règle pour être équilibré. Après, j'ai commencé à poser ça. Tu la poses 100 fois sur le pain de mousse, tu as 100 fois les mêmes côtes. T'as pas une... Ça bouge pas, quoi.
C'est important.
Ah bah oui, c'est important. Donc le truc, ça a été mes références. Et après, je me suis fait d'autres règles un peu plus. Et puis après, j'ai commencé à me faire des outils de contrôle. Pour remettre en question ce que vous voyez, regarder, comprendre et apprendre, et commencer à prendre des cotes sur les planches. Et après, je me suis dit, tiens, les planches, ça structure, il y a les parties avant, les parties arrière, ok, on met une règle, on fait des trucs, mais en fin de compte, la relation des chiffres les uns avec les autres, ben, c'est pas évident à avoir cette relation avec les dégressions de chiffres. Donc je dis, ben là, je vais commencer à côté différemment, à faire glisser des règles pour pour vectoriser les parties les unes par rapport aux autres pour donner le spirit des planches, quoi, et spirit partie par partie.
Ce que je t'ai vu faire à l'atelier.
Voilà, et ça, c'est une réflexion qui est pas commune, quoi. Mais à un moment donné, quand tu veux structurer, moi, je faisais pas beaucoup de planches. Et puis j'ai voulu structurer, j'ai commencé à faire comme ça, à regarder des trucs.
Comment ça t'est venu, ça? C'est un truc...
C'est par déduction, quoi. Je me dis, mais là, je sais pas exactement ce que je fais. Là, je suis là, je sais pas ce que je fais. Donc, si je fais ça, si j'ai une planche qui est plus grande, que j'ai du noz, si j'ai une planche qui est beaucoup plus grande, les chiffres vont être différents. Parce qu'en fin de compte, c'était juste la fin de la planche qu'il aurait fallu que je mette un petit peu plus. Et là, je me suis fait, donc je me suis pris une grande règle, et puis je me suis pris des petites règles, et puis j'ai commencé, d'abord c'était une cornière que je mettais dessus, puis ça glissait, c'était chiant, donc j'ai cherché des points comment faire, à faire glisser et tout, puis après je suis arrivé à des points mètres, qui en fin de compte, t'as plus besoin d'aller plus loin, t'as certains points, ça te, tu vois comment tu fais, ça te verrouille la planche, quoi.
C'est un quadrillage, quoi.
Ouais, c'est-à-dire. Alors, c'est pas un quadrillage régulier.
Oui.
Ce sont des points.
Un quadrillage de points, plutôt.
C'est pas un quadrillage régulier de points. En fin de compte, t'as des points clés, et avec ces points clés, tu fais glisser des règles sur certains points clés.
Ça dépend de ton design, de planche et tout.
Voilà, alors ça revient sur toutes les planches. J'ai toujours un pied et demi à l'avant, un pied et demi à l'arrière. Parce que je suis plus bon. À un moment donné, j'allais à un pied de l'arrière aussi. Je faisais deux pieds de l'arrière, un pied et demi, deux pieds. Alors en fin de compte, je me suis. Si c'est une six pieds, ça va automatiquement à deux pieds de l'arrière. Mais si c'est une 5-6, c'est moins de pieds. Il y a des points stratégiques qui se mettent où, en fin de compte, sur mon articule, en minimum de points d'équilibre de règle, tu as complètement verrouillé en rocker. Il y a trois types de rockers. Comme je t'avais montré sur les planches, j'ai trois types de rockers sur la planche. Ils sont contrôlés sur le dessous. Donc, qui peuvent chacun avoir... Sur 6 différentes planches, ils peuvent chacun avoir en plus un spirit différent. Mais ils doivent être liés les uns aux autres. Et après, sur les hotlines, j'ai fait différemment, quoi. Je me dis, flèche, corde, arc, rayon, quoi. C'est bien les templates, mais les templates, tu sais pas ce que tu fais, quoi. Tu fais le bricolage. Donc je les ai structurés avec des chiffres. Flèche, corde, arc, crayon, j'ai tout vectorisé pour arriver. Et puis en plus, c'est super, tu cherches quelque chose. Si tu n'arrives pas à l'avoir d'un côté, par un côté, tu peux l'avoir par l'autre. Ce que j'ai montré à Nico cet après-midi, tu n'arrives pas à l'avoir comme ça, tout ça. Bon, tu veux mettre ça comme courbure à tel endroit, on va chercher les autres courbures qui vont bien. Et pop, je vais trouver. Là,
Ça va faire un peu de géométrie quand même.
Oui, ça fait faire de la géométrie. Il faut avoir de la réflexion, il faut être assez fin, il faut tenir compte de pas mal de choses. Après, des fois, tu topes la calculette. Hein. C'est hyper rigolo. Hein. D'ailleurs, à un moment donné, je lui dis, tiens, cherche-moi tu peux me diviser ça par un 6. Regardez, ok, je lui dis, bon, on va faire un peu en dessous pour donner un peu de continuité. Puis on est arrivé, on sortait d'un 4 mètres. Je lui dis, qu'est-ce qu'on va mettre derrière comme courbe? Lui, je dirais un 3 mètres, je pense, un peu. Puis je lui dis, tiens, divise-moi la courbure là par un 6. Il a trouvé 2,6. Et je lui dis, bon, on va mettre un 2,8. Pour compenser un petit peu, pour donner un peu de tension. Et comme ça, ça va être plus smooth. Et après, j'ai mis le pistolet. Et puis, pop, ça s'est raccordé. Nickel. Parce que lui, il avait un vieux template qu'il avait pompé quelque part. Mais il voyait bien que son template, il avait des problèmes. Qu'il n'avait pas utilisé
ça
sur toutes les planches. Non, il y avait des trucs qui buguaient, quoi. Et là, on lui a refait son template. Donc, en fin de compte, on a retracé sur une planche qui va découper souvent les trucs. Et là, il va pouvoir prendre un template d'une certaine façon, quoi. Puis, il y a des logiques. Tout a des logiques, quoi. C'est assez fantastique. C'est quand tu prends un triangle. Tu dis, je prends tel secteur angulaire, tel secteur de la planche, je mets tant de rayons ici. Donc en fin de compte, tu as un rayon sur la outline. Ça, c'est la outline à la planche. Mais là, tu as un rayon. Donc tu pars du milieu, tu fais ça, tac, et là, tu as un secteur. Sur un secteur angulaire, tu as tant de rayons. Tu dis, je vais accélérer la courbe. Ben, tu fais comme quand tu traces des ellipses. Tu te mets sur le côté du secteur angulaire, tu prends un compas, tu le règles avec une valeur inférieure à l'autre, tu te mets sur le côté, et là, tu traces, tac. tu donnes un rectangulaire, hop, tu as créé un début d'ellipse, et après tu recommences à faire pareil sur le côté de ton rectangulaire, tu refais un truc un peu plus court, et tu retraces et tu fais un escargot à la fin.
Tu fais
le truc qui s'accélère comme l'escargot. Tu arrives à ça. Et après, tu peux le faire avec des coefficients plus ou moins importants. Tu vois ?
Je vois bien en théorie, je ne saurais pas
et
le
après,
faire
tu, avec après, tu le travailles, tu peux travailler d'abord avec une accélération douce et après une accélération un peu plus importante. Tu vois,
c'est... Du coup, toi, maintenant, tous ces rayons, toutes ces cotes, c'est dans ta tête. Quoi.
Ah, mais moi, j'ai des. Je t'ai pas montré, j'ai des piles comme ça, là, de cahiers. Ouais.
Tu travailles qu'en papier, du coup ? Pas d'ordi ?
Ah, si, aussi.
Un peu aussi, quand même.
Si, ouais, je me démerde pas mal d'ailleurs. Mmh. Mais il faut. Don't trust the computer. Ne le crois pas. Ouais. Ça va t'aider, tu es toujours obligé de retoucher et ne le crois pas parce qu'il y a des défauts. Au point de vue mécanique, déjà, il y a des défauts de coupe, il y a des défauts de pas mal de choses, de calage, de pas dû aux flexions, il y a plein de choses. Déjà, ça te crée des asymétries, des trucs. Tu vois, ça crée des problèmes quand même. Et après, rien que par rapport au design, la machine ne construit pas exactement ce que tu as designé. Et le design n'arrive pas à construire que toi, ce que toi tu vas faire à la main. Ça veut pas y aller, quoi. Les courbes, quand tu les lisses, quand tu les laisses, soit tu forces les courbes, donc tu risques de faire des trucs, soit tu fais lisser, donc tu amènes, mais ça y va pas vraiment. Donc, à un moment donné, il faut laisser des surplus à des endroits. Mmh. Moi, je laisse toujours des surplus en largeur sur le nose, sur le tail, parce que je sais que je vais pouvoir retravailler mes courbes de cette façon, même si sur l'outline, c'est pas trop mal. Mais enfin, il y a certains trucs qui buguent un peu des fois. Donc, je laisse un peu de surplus pour venir récupérer ce que j'ai besoin. Et après, sur les rockers, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est beaucoup plus fin. Et là, c'est hyper difficile. Alors, il y a certaines planches. Il y a une planche, un jour, j'étais avec un copain, je lui ai dit, tu vois, celle-là, on va la faire à la machine. Tout va aller tout seul. Mais tu as déjà fait, tu vas voir. L'esprit de la planche était monocourbe. Donc déjà, tu n'es pas sur une rocker, tension et remouvement. C'était l'esprit de la planche, sur toute la planche, était une tendance monocourbe, même s'il y avait des accélérations de courbure sur les extrémités, une tendance monocourbe. Donc en fin de compte, tu rentres les pointes, tu fais des trucs, tu vas. Mais de suite, la hotline, elle s'est fait hyper vite. Et le rocker aussi. Bah, c'était l'esprit de la planche qui était adapté pour ça. Il est par rapport aux knobs, aux calculs mathématiques des courbes, des évolutions. Mais quand tu demandes de faire un arc de cercle, l'ordinateur, il va savoir te faire un arc de cercle. Quand tu as une planche qui est basée sur un arc de cercle, la base du rocker, la base du rocker et la base de la hotline, bah, c'est facile. C'est le computer et tu as des petites nuances que tu donnes, tu forces un peu les lignes, mais ça y va facilement. Mais quand tu fais une petite planche, c'est pas la même chose. Si tu veux, elle va vouloir accélérer des fois la planche. Tu donnes un lift tail derrière et le computer, lui, il va vouloir te l'accélérer, il va vouloir te faire accélérer la courbure un peu plus tôt. Il va pas vouloir, tu dis non, je tends là et après je donne. Il veut pas y aller. Et pourtant, en mécanique de feed, tu dis c'est comme ça que ça doit y aller. Hein. Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on le fait comme ça. Et là, j'ai dit, il va pas. Donc, tu as des planches maintenant qui sont fabriquées en série partout, comme ça. Mais c'est des planches, quand il faut aller... Quand tu fais que tu imprimes un mouvement en bas et que tu dois les projeter loin devant, haut et loin devant, ça arrête avant la planche. Parce que justement, ils sont basés, entre les appuis, tu as des monocourbes. Quoi.
Mais du coup, à quel moment tu te dis là je vais utiliser l'ordi? Parce que j'ai vu tes feuilles à l'atelier, t'as pas l'air d'avoir beaucoup besoin de l'ordi quoi.
Ah oui, moi je m'en sers parce que je suis feignant. Donc je minimise mon travail au rabot quoi. D'accord. Ah ben oui.
Ouais, ouais.
Je bouffe moins de merde. C'est pas évident.
Tu m'as dit la dernière fois qu'on s'est vu que t'étais allé chez PA Hawaii à un moment dans ta vie.
Oui.
Donc t'es parti, c'était plus tard ça dans ta vie que tu es parti à Hawaï?
96 il me semble. Oui je crois que c'est ça, février-mars 96 j'ai été 3 semaines à Hawaï. Et là c'était assez rigolo parce que je suis arrivé, donc j'ai été crêché chez Steve Wilson qui est un shaper, qui était un shaper local motion. Et puis carrément, j'ai été voir Arakawa chez lui un dimanche après-midi. Je suis arrivé un vendredi. Et le dimanche après-midi, je savais qu'il habitait dans le. Je savais dans quelle rue il habitait. J'ai repéré la baraque. J'ai vu, puis un jour, je suis passé un dimanche après-midi. Je suis passé deux fois. Puis la deuxième fois, j'ai vu qu'il était dans le jardin. Là, il sortait de son garage. Et j'ai été le voir. Je dis, ah, voilà, le mec était surpris que devant chez lui, un mec qui le top comme ça. Ouais. Puis il me dit, rendez-vous. Rendez-vous lundi matin à telle heure devant chez moi, je vois passer chez Clarform. Il me dit, j'étais m'acheter un rabot, j'étais m'acheter des outils, et puis il m'a mené à l'Elimination Hawaii. Et puis là, après, j'ai commencé à regarder, un peu à traîner sur l'Elimination Hawaii. Et puis après, je me suis fait des planches pour moi. Je lui ai acheté des pains de mousse, évidemment, lundi matin avec lui pour me faire deux planches. Et puis j'ai fait deux planches, j'ai tout simplement fait les rails comme il les faisait, lui.
Ce qu'on disait la dernière fois.
Voilà. Ce qui se trouvait le cul à Kim Poynton, qui lui travaillait depuis quelques années avec lui, il avait quelques soucis. Moi, je réussis
là,
à le faire.
Sur tes planches, c'était sur mes planches. Même démarche, quoi.
Sur mes planches.
Tes planches, mais dans leur atelier.
Et là, du coup, mais là, je faisais des planches. Je faisais des planches pour les pros en France. Là.
D'accord.
Mais c'est justement cette année-là où ça a vachement décollé, quoi. Cette année-là, 96, j'ai fait 48 planches pour les pros là, qui venaient en Europe. Okay. Je vendais 6 planches clients et je faisais 48 planches pour les pros. C'est parti, j'avais quasiment que les pros en clients. Quoi.
Mais c'est des gens qui t'ont démarché, que toi t'as contacté?
Si tu veux, j'ai fait des planches d'abord à Didier Peter, après Didier Peter, j'ai fait Salvaire, après Salvaire, Fred Robin, et puis comme ça, fil en aiguille. Donc ils ont commencé à me commander des planches. Donc ça a commencé en 92, en 94 un peu plus, 95 un peu plus, puis 96, je me suis fait 48 planches pour les pros, quoi, ce qui était complètement improbable.
On a dérivé du coup parce qu'on était sur Hawaï.
Ouais, et Hawaï, mais Hawaï.
Donc là, Arakawa, t'as bossé là-bas après?
Ouais, j'ai commencé à faire des planches là-bas, deux pour moi, et puis après, les mecs, ils ont vu que ce que je faisais c'était pas mal, que je savais shaper, donc ils m'ont donné des planches à faire en Shadow Shaper. J'ai appris un truc là-bas, c'est toucher le nose, le dessus du nose à la ponceuse. Moins chiant qu'avec les rabots pour dégrossir, à la ponceuse. Pas d'un peu dur, bim bim ding, tu fais sauter un peu le dessus du nose, tu donnes la courbe, c'est un petit coup de main là, sac sac.
Oui, parce que le rabot au bout d'un moment dans la courbe ça devient.
Ça y va pas. Voilà. Ça y va pas quoi.
Ouais. Tu me disais que tu avais bossé aussi avec John Carper.
Oui, alors c'est John Carper qui m'a dit qu'il fallait que j'aille à Hawaï. Quand on regardait ce que je faisais à Euroglass, il y avait des planches à moi que j'en ai à glacer à Euroglass. Mmh. Et un jour il m'a dit, tiens, c'est toi qui fais ces planches là? Je fais ouais. Il me dit, Il faut aller à Hawaï et tout. Alors il m'a passé ses coordonnées, mais viens à Hawaï, il faut aller chez pas Hawaï. Il dit, tu fais des beaux trucs, il faut que tu ailles chez pas Hawaï. Donc j'y étais une fois. Et après, j'ai été chez voir à Kawa parce que j'avais pas compris où est-ce qu'il était Carper. Puis j'appelais, ça répondait pas. Il est normal, il s'était barré à l'étranger. Et après je l'ai vu. Alors après il m'a invité à son anniversaire, d'ailleurs, c'était hyper rigolo. Alors, c'est l'anniversaire de Carper avec Carper qui disait, ah ben là, mon copain français, putain, il disait, super shaper, il fait des super boards, tout. Bon, après, ils sont les Américains, tu sais, ils sont très dans le superlatif.
Amazing.
Mais après, c'était sympa parce que il m'a quand même accueilli, il m'a filé son shipping room, j'ai utilisé ses outils, j'avais déjà acheté mon rabot, donc j'ai utilisé mon rabot, mais j'ai pu utiliser des outils à lui et faire en sorte que, après, j'ai été amené, mais mon gun jaune que tu as vu là, que j'ai amené à glacer à Jack Reeves et qui a reçu un surfboard Hawaii dessus. Ça c'est
donc j'avais fait voyage à ce moment-là.
Non, après j'ai passé une autre semaine c'est à dire qu'au milieu il y a une semaine avec Tempête, donc c'est très bien, je bossais pour la Tempête. Et puis après, j'ai été surfer quand je pouvais surfer, quand c'était bon, j'ai été assez chanceux. Et puis j'ai été faire ma planche à Carper une après-midi, là, je me suis fait mon gun. Il me dit, bon, pas après 5h30, bon, Le rabot, pas après 5h30, enfin les derniers coups de rabot que j'ai mis, il devait être 18h30, mais me dit interdit après 5h30 pour le bruit. Parce qu'en fin de compte, ils sont underground là-bas. Ils ont ils avaient plusieurs ateliers, ils chèpent dans des trucs underground, parce qu'en fin de compte, t'as pas le droit de produire sur le North Shore. Théoriquement, mais enfin bon.
Et du coup, finalement, t'es resté combien de temps à Hawaï là ?
3 semaines.
C'était rapide en fait.
Ouais, j'ai pu surfer. Je me suis fait un petit. Je me suis fait surfer 2 fois pipeline. C'était sympa. La première fois, j'ai été chounard. Hein, parce que c'était. Le dimanche, le mauvais temps arrive. Le samedi, on l'a vu qui grimpait. Ça commence à être un peu venté. Le dimanche, bah, bordel, tu vois. C'était en vrac. Et puis le jeudi, ça se calme un peu. Puis le vendredi matin. Je marche le long, je suis à pied, tu vois, le long du North Shore. Et puis là, j'arrive à Rocky Point, et là, je vois dans la vague, putain, lisse dans la vague. Bumpy au fond, mais lisse dans la vague à Rocky Point. Entre Rocky Left et Rocky Right, c'était plus calme les vagues dans la vague, un peu bumpy au pic, mais après dans la vague c'était propre. Je dis oh putain, je pars en courant. Moi j'habitais Sunset, donc je vais à Sunset. Alors j'habitais chez Charlie Walker qui était un ponceur qui ponçait notamment pour Jack Reeves. Puis là je vois ça, demi-tour, là, je vais chez Charlie Walker, je vais chercher ma 7 pieds, je la glisse dans la bagnole et je roule et je me mets dans la contre-allée, il n'y avait personne. Puis il y avait déjà 4 mecs qui étaient à l'eau, quoi. Le surf commençait. Donc il y avait 4 mecs à l'eau, je me mets avec eux, je me mets comme je suis goffy, je me mets sur la gauche. Putain, la gauche, j'avais du mal à engager dans la vague, j'étais jamais très très bien. Donc je décide de partir sur la droite. Hop, la droite, j'engageais plus facilement dans la vague. Donc je prends quelques vagues sur la droite et après je reviens sur la gauche. Et puis j'ai commencé à prendre des vagues sur la gauche, super. Donc je passe 2 heures à l'eau, hyper content. Puis je sors, je remets ma planche dans la voiture. Et puis je dis tiens, je vais me garer à Ukai Beach Park. Puis au Ukai Beach Park, je retrouve des copains brésiliens où la semaine avant, on s'était fait, le samedi avant, on s'était fait Rock Pile. Hawaïens et brésiliens d'ailleurs, des mecs qui bossaient dans les planches. Enfin donc, suite à mon surf à Rock Pile, quand j'arrive à Ukai Beach Park, avec Pupukea, là où t'as les gamins qui surfent, toi. Et juste à côté, t'as Pipeline. Ouais, t'avais des vagues, un bon 1m50, tu vois.
1m50 hawaïen ou 1m50
Ouais, tu vois, t'avais. Alors si tu veux, t'avais des take-off à 2 mètres, quoi. Quand je lui parle. Mais Pipeline, il n'y avait rien, quoi. Ça marchait pas, quoi. Un truc qui faisait même pas 1 mètre, quoi. Ça marchait pas. Ou trop nord, trop petite, enfin ça marchait pas, quoi. Et là, on voit un gamin qui glisse sur la fin de vague de sa droite. Au lieu de repartir vers l'est, et bien il rame vers l'ouest, donc il rame vers Pipeline. Puis on voit ça, et puis tout d'un coup le gamin il démarre une vague, et là on regarde et dit ah non mais là il y avait un petit 1m50, tu vois. Petite vague, un petit 1m50, un gros 1m20, un petit 1m50. On dit, là, hop, tout le monde regarde ça. Ah, et une vague qui a été prise à Pipeline. C'est un gamin. Le gamin, il surfe la vague, il ressort, il repart sur la vague. Et là, on voit un adulte qui sort de maison, qui fait... qui gueule un peu et qui lui montre de retourner sur l'est, c'est-à-dire sur Pupukea et Ukai Beach Park et Pupukea. Et puis, je sais pas, 5-10 minutes après, pop, on voit un mec qui se met à l'eau. On regarde. Puis on voit le mec, hop, sur la gauche, on voit le gars, pam, il démarre une vague, pouf, 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 il accélère dedans, puis on dit, ouh, mais il y a un petit 1m50 là. On regarde un peu, puis un mec, je sais pas, 5 minutes après, pam, il en prend une seconde. Alors le Brésilien, il me dit, putain.
Il était tout seul.
Il était là. Il était tout seul, le gars. Il dit, oula, il y a une Old West qui est en train d'arriver. Puis là, tu le vois, parce que la vague, elle ouvre bien, tu vois. Il y a une Old West qui est en train d'arriver, quoi. Puis là, je vois les mecs qui prennent des vagues. Je dis, putain, mais là, c'est l'occasion de surfer Pipeline. Il n'y a personne. Moi, j'ai fait l'opération, quoi. J'ai pris ma planche, j'ai couru, et devant moi, c'était Ian McNamara qui se mettait à l'eau.
D'accord.
tu vois. Donc je suis arrivé comme ça, il est arrivé sur la plage, il m'a regardé, il m'a salué parce qu'on s'était vu là, on s'était vu à Lamination Hawaii dans l'atelier d'Eric Arakawa. Et puis voilà, donc le mec m'avait vu, il me dit bonjour, tout. Puis moi je me dis ben là. Mais je me colle derrière lui parce que tu contournes pas le pic comme ça, tu te mets face au pic et après c'est un courant qui t'amène et craque tu passes, tu vois. C'est assez spécial pipeline. Et là, le temps que je marche, que je vienne, c'était un gros 1,50 m. Donc l'autre il se met à l'eau, donc lui il était 5e homme, moi j'étais le 6e à me mettre à l'eau. On a fini à une quinzaine de mecs, moins de 20 mecs. Normalement t'as 100 mecs sur la bagarre. Ben on a fini, il y avait 6 pieds. 6 pieds, alors je te dis 6 pieds, nous on dit ça fait 2 mètres, 6 pieds pour nous.
Ouais.
Tu vois, ça va théoriquement à 1,80 m. Sauf que 6 pieds là-bas, c'est 2,50 m. Et à un moment donné, j'ai eu une vague, tu vois, j'étais là, il y avait McNamara qui était 7-8 mètres de moi, quoi. Peut-être même un peu moins, quoi. Et là, je vois une vague, je rame et puis je le regarde comme ça, je me mets dedans comme ça, et puis je le regarde comme ça, et puis le mec, il me regarde. Et dans le regard, il arrêtait de ramer en me regardant et je savais qu'il me disait, sans le dire, allez pour toi. Donc je regardais, j'hésitais un peu et j'ai ramé. Et cette vague-là, il a choisi pour moi, il m'a regardé et la vague, elle m'a cueilli dès le bas de la vague. C'est-à-dire j'étais dans l'angle comme ça. Et dès le début, je me suis levé sur la vague, elle n'était pas encore verticale la vague. Et c'est en descendant qu'elle a pris sa verticalité, j'ai fait le bottom, hop, elle a couvert, je me suis mis dans le creux, comme ça, tac, je me suis pas fait. J'ai fait une entrée de tube. Le lip me passait au-dessus, mais il tombait, mais derrière moi, quoi. J'ai géré un peu les trajectoires comme ça, tout le long. Elle était. De cette façon, ça a été ma meilleure vague, quoi.
Et tu t'en rappelles encore. Donc, je reviens un peu en arrière. Donc, Hawaï, c'est fini. Tu rentres en France.
Ouais.
Et là, à ce moment-là, à quel moment t'as switché à je fais du shape à plein temps en fait ?
Mais c'est l'année où je me suis fait 48 planches pour les pros.
Ouais.
Quoi.
Okay.
Donc moi, j'ai toujours travaillé dans l'aéronautique, sauf depuis le Covid. Et depuis le Covid, j'ai arrêté.
Ah, donc t'as quand même mené les deux de front jusqu'à...
Ouais, pendant longtemps, hein. Ouais, non, c'est sûr que ça te... Alors des fois, je m'amusais à dire, putain, j'ai fait l'erreur de me mettre à HP. Mais ça m'a bouffé ma vie de surfeur. Parce que tous les temps libres que je passais ou que j'ai pas été surfé, moi je m'envoyais 38 heures par semaine et après, derrière, j'enquillais 40-45 heures par semaine. À un moment, j'avais 80 heures de boulot par semaine.
Ouais. Et du coup, toi, c'est quoi ta clientèle maintenant ?
Des gens qui veulent bien acheter les planches, qui sont OK de mettre un prix raisonnable, pas un prix de 3 cacahuètes, dans une planche qui est une belle et bonne planche. C'est beau et ça marche.
Tu fais que de la commande ?
Oui, absolument.
Pas de stock, pas de magasin ?
Oui, je fais que de la commande.
Tu vas un peu en magasin, non ? Pas du tout ?
Si, j'ai un shop à Carcan qui me prend quelques planches par an.
Enalou ?
Enalou, 3-4 planches, tu vois... dans l'année, plus enfin,
ouais, enfin ouais, dis,
disons il me met oui il y en a parce qu'on a travaillé un petit peu ensemble, on met quelques-unes mais il n'y en a pas beaucoup.
C'est anecdotique.
Donc voilà, on partage un petit peu de bénéfices et lui il fait trois fois rien en bénéfice et moi trois fois rien parce que j'ai un coût de production qui est trop élevé quoi. Les mecs à qui je fais faire les planches, je les paye quoi, les glaceurs.
Ouais,
c'est des petits ateliers.
J'allais te poser la question, toi tu fais plus du tout la strat fonçage.
Laissons aux professionnels leur boulot.
C'est clair, c'est un métier quoi.
C'est un métier. Bon, ça, c'est chaud quand même. Il faut être bien dans son corps.
Ouais. C'est pareil, ça, t'as ton petit pool de mecs avec qui tu bosses.
Ouais, Tristan Moss, là, j'ai pas encore donné de planche cette année. Il m'en a fait en début d'hiver avant qu'il parte à Taïwan. J'ai Jean, mon glaceur au sud, j'ai Nico ici à la Cano que t'as vu,
ouais.
J'ai Blind un peu de temps en temps qui peut m'en faire aussi. Après il y a d'autres mecs qui pourraient m'en faire aussi, mais bon, j'ai pas assez de production pour filer à tout le monde. Donc on reste centré un peu avec les gens sur qui on est bien. C'est-à-dire quand tu sais ce que c'est qu'une planche, en fin de compte, il faut avoir des temps de gel, il faut pas que la résine soit trop liquide au départ, quand tu la poses, parce que sinon sinon elle amène à se visser sous le tissu et après le tissu flotte, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, parce que la résine elle-même, quand le tissu n'est pas imprégné, la résine elle est plus lourde que le tissu, tu vois. parce que tu as vu, c'est les trames, il y a de l'air et tout dedans, tout. Donc, tu vois, et la résine, elle arrive à tapasser les trames, et après, tu as les tissus qui flottent. Tu vois, donc il faut attendre des certaines phases pour. Donc, quand tu le fais bien, tu drapes un tissu dessus, tu découpes le tissu, tu prépares ton truc, tu découpes ton tissu, tu as découpé tes soies, tu replies ton tissu, tu prépares les soies à côté, tu mélanges ta résine. Tu mélanges la résine et t'attends à peu près, enfin, une fois que tu as mélangé, t'attends à peu près sur les températures 2 minutes 30, 3 minutes, tu vois. Et ça dépend, quoi. Et puis là, à partir du moment où tu as commencé le mélange, on va dire 3 minutes après, il faut commencer à mettre la résine, tu vois. Là, t'as quelques minutes. Le mec, il glace bien et il met 2-3 minutes, il a rabattu, il a imprégné, il a rabattu ses trucs, tout, bam, il a tout fait, tout. Donc, si tu veux, le temps de travail de la résine, suivant les températures, on va être entre 5 et 7 minutes, tu vois. Après, tu vas savoir ce que je fais comme type de planche. J'ai un modèle qui marche, que les gens, tous ceux qui montent dessus, ils sont là, pff, super board. C'est mon Elgato 4 channel, round pin. J'ai rien inventé. J'ai un mec qui m'a envoyé une vidéo il m'a toujours commandé des moutons à 5 pattes. C'est un mec qui m'a fait évoluer parce qu'il me sortait toujours de ma zone de confort. Il me disait, je voudrais une planche comme ça, quoi. Puis un jour, lui, il m'a dit, tiens, regarde la vidéo, Torrance Martin avec. Je pouvais mettre Jones, je sais plus trop quoi, là, un Shaper Morning of the Earth, là, ouais. Le 4 channel, tout. Ça a l'air super à surfer, tout. Je regardais, mais ouais, ça va, il me dit, bon, tu peux faire un truc comme ça. Et puis je regarde les planches, il m'envoyait des vidéos, toi. Il m'envoyait plusieurs dossiers. Puis j'ai regardé, je lui dis, oh ouais. Moi, je l'ai fait à. J'ai compris une fonction de ce type de planche. Alors, je suis parti de l'idée la même chose que lui. Sauf que j'ai fait des modifications. J'ai dit, là, je vais me mettre du V ici. Là, je vais faire ça comme ça. Là, je vais amener ça comme ça. Je vais faire un belly un peu plus flat sur le. Là où c'est le plus flat, ça va être 6, 7, 8 inches décalé devant le milieu de la planche. Après, je vais remettre du mouvement dedans parce que je vais mettre la planche un peu plate comme ça, donner un belly ici, faire ça. Toi, je disais, mais la base de la planche, c'est la même chose, c'est un twin fin 4 channel round pin. Ouais. Tu vois, qui est embelli, quoi. Ouais. Après, j'ai des petites nuances dans les façons d'équilibrer les courbes. Donc, je me suis créé, approprié un modèle à lui, que je me suis retourné un peu à ma façon. J'ai fait un modèle qui est super sympa et que j'ai décliné pour plein de gens. Les mecs te disent, waouh, c'est une board, quoi. C'est vraiment une board, quoi, qui offre une facilité d'engagement dans la vague, qui est hyper sécurisante, facile et qui va vite. Dès que tu as une vague qui se met dedans, vous. Et puis, tu surfes petite vague, mais tu surfes 2,50 m, tu ne bouges pas, quoi. Et puis, si tu veux faire les turns, tu dis, waouh, c'est un twin fin, round pin. Toi, un twin fin, ça tourne. Mmh. Round pin, c'est-à-dire, il n'y a pas d'appui arrière. C'est même bluffant tellement que ça tourne.
Et pourtant, tu capes. Beaucoup de cotes différentes en longueur ou c'est...
Les plus courtes, 5-8. Ah, les plus grandes, pour l'instant, 7-6. Tous les gens vont te dire qu'elle est facile, rapide, et tu la mets là où tu veux. Et moi, je le définis autrement. C'est une planche qui part au planning, facilement, avec un arrière qui s'enterre un petit peu dans l'eau. Pour démarrer une vague, c'est bien comprendre la mécanique des fluides et puis le phénomène Archimède. C'est-à-dire qu'en fin de compte, une planche, si elle monte trop sur l'eau à l'arrière, tu fais l'élévateur. Une planche qui s'ancre un peu dans l'eau, quand la vague elle arrive, qui a un planning qui s'ancre un peu dans l'eau, mais quand tu commences à monter, ça ne peut pas monter, il y a l'eau dessus. Elle sort de la vague. Tu vois ? Donc c'est tout un équilibre à avoir. Et ce modèle-là, il jaillit de la vague. C'est ça, c'est bonnard. Alors un peu long, moi je le conseille toujours avec un peu de longueur. Et après, c'est une planche qui monte au planning facilement. Chouk, elle se met là. Et en plus, quand tu es là-dedans, mais si tu veux faire mordre le rail, elle y va facilement. Tu vois, je t'ai montré là les volumes, tout. Après, tu as des rails, avec du volume qui tombe dessus. C'est des rails travaillés, hein. C'est pas en fin de compte, c'est un twin fin avec un arrière qui s'efface. En plus, tu avais les channels, ils ont des formes un peu bizarres, c'est pas n'importe quoi. Je t'explique très simple, c'est channel extérieur, c'est 3,6 m de rayon, channel intérieur. Moi, c'est du 5,8 que j'utilise. Toi, c'est la logique de chiffres. Moi, je chèpe comme ça depuis des années, quoi. l'esthétique des planches, ce sont des chiffres, en fin de compte. Ouais, c'est ce qui donne l'âme et l'esthétique
c'est la
géométrie, de la
planche. En fait.
C'est des chiffres. Donc les gens, ils vont te dire, voilà, et après, alors ça, c'est un modèle que j'ai,
ouais,
que, voilà, qui est bien. Après, j'ai un modèle qui est un petit peu, un peu plus hot dogging, c'est le Lynx, qui est avec un slide concave, qui serait comme un fiche, mais un peu étroit sur l'avant. Mais un fiche un peu étroit, c'est-à-dire pas qu'un mètre beau trop avancé. Et derrière, c'est un round pin comme le Elgato, sauf que le round pin, sur les trois derniers inches, aux alentours de 6 inches, je me tends un peu plus. Et je garde, au lieu d'avoir une courbure qui rentre un peu plus, je la garde un peu tendue. Donc naturellement, et je commence un petit peu avant, donc naturellement, le 6 inches est légèrement plus large. Et le 3 inch est un peu plus large, toi. Ça se sent un peu plus dans le 3 inch. Donc l'arrière est un peu plus round, un peu moins pin, un peu plus round. C'est pas fait pour n'importe quoi. C'est fait pour, en fin de compte, c'est une planche qui est hot dogging, qu'on va faire en plus petite planche. C'est une planche qui doit garder un tempo sur le pied arrière. Le même mec qui m'a fait designer la planche du Elgato, après il me dit, tiens, tu peux me faire une planche là comme ça pour la gravière, tout comme ça pour aller surfer de la gravière. Et comme il avait déjà le gâteau, j'ai dit, bah, écoute, je vais te faire un truc comme ça. Et on va la mettre en twin film avec possibilité d'un trailer dedans. Et là, on va faire une planche légèrement plus étroite avec un arrière qui est aussi large, aussi large à un pied à l'arrière. Mais les lignes, elles sont plus étroites, une ligne qui est plus tendue. Et en plus, je garde un peu plus tendue, mais avec un mouvement quand même sur la outline devant. Et devant, on va faire plus étroit avec quelque chose de plus hot dogging. Donc, tu as une planche qui va driver, quoi. Qui va driver dans le creux hyper bien. Et en même temps, elle est courte.
Mais quand tu dis un avant plus hot dogging,
c'est-à-dire plus étroit, quoi. Voilà. Moins de l'accroche à l'avant, c'est-à-dire que tu vas avoir les courbes vont se dégager plus tôt, donc tu vas avoir moins de longueur d'accroche sur le rail vers l'avant. Tu vois, donc c'est plus dans le shortboard, quoi.
Ouais, ouais.
Mais avec une tendance un petit peu shapée un peu comme un twin fin à l'avant. Et en plus, je lui mets un style avec le Beckett nose. Mmh. Je trouve que ça va bien avec. C'est une histoire de style. Et là, ça commence, il y en a un mec ici qui en a une, donc là, j'en ai trois autres à faire. C'est une super board. Et donc, j'ai ce modèle-là qui est un Elgato dogging, c'est-à-dire que tu as un léger concave, mais il est placé de 6 inches vers l'avant, le concave, et, okay. c'est fait pour avoir créé un rocker dans le mouvement de rail, pour avoir vraiment une planche hot dogging que quand tu appuies comme ça, boum, elle y va, mais tu passes sur une ligne plus tendue derrière, bim, donc c'est que tu as un bon drive. Comme tu as un mètre beau qui est déplacé d'un inch et demi devant, tu as une longueur d'accroche, au lieu d'être, mettons, deux inches vers l'arrière sur un shortboard, la longueur de la planche arrière, elle est 3 inches et demi plus longue qu'une planche de sa même taille,
ouais.
Classique.
Ouais, ouais.
Mais sauf que tu as un avant mais qui est un peu plus large, mais que tu donnes des courbures un peu comme un fiche, mais en étant un peu plus pointu. Et là, tu as une planche, tu tapes un petit concave, slide concave au milieu et centré avant. Et là, en fin de compte, tu vas trouver un rebond sur le pied avant qui va te permettre d'engager une courbe, d'engager bien dans un turn serré en ayant une courbe tendue sur l'arrière. Ce qui fait que quand tu passes sur l'arrière, boum, tu projettes loin devant, tu tournes, tu es sur un twin fin, donc boum, tu break facilement. Et quand tu te cales sur l'arrière, tu as une vitesse rapide, la planche, elle y va, quoi. Et tu fais ça et tu passes à l'avant des dérives, tu passes sur de la transition, c'est-à-dire tu passes sur du vie pour aider la planche à passer d'un rail sous l'autre. Tu vois ? Et du coup, tu joues par des artifices comme ça qui peuvent être judicieusement passés, peuvent t'aider à amener des courbes qui vont dans ce côté-là. Parce que c'est ça, toujours pareil, des courbes. Des courbes que tu dois donner par rapport aux portances, aux résistances des planches. Et là, tu donnes un spirit à la planche. Et le spirit, il est bon, quoi. Il va vite, quoi. Il a du rebond, il y a du niaque, les mecs sont là, waouh, ça tourne. La planche, elle marche dans le creux, dans le plat, offshore, onshore, on est à balle, il y a du contrôle, il y a de la manœuvre et ça va à donf. Tu ouvres ton éventail de trajectoire.
Ouais.
Voilà, le but c'est ça.
C'est ton dernier modèle, du coup, le Lynx un peu là, que t'as développé, on va dire.
J'en ai un autre qui est un twin fin, un shortboard twin fin. Là, je travaille dessus. Okay. Là, je vais faire le troisième.
En cours. Ouais.
J'ai une critique, hein, j'en parlais à les mecs, ils savent que je leur dis la planche, elle est trop comme ça, elle est trop comme ça, là, il y a un peu trop de scie, là, il faudrait que ce soit un peu plus comme ça. Ils sont d'accord, hein, les mecs.
Tout à l'heure, tu parlais des TX, c'est ça que tu m'as dit ?
Ouais, ça, c'est un modèle que je fais depuis très longtemps, le TX2. Hop.
TX2.
Ouais, c'est un shortboard, quoi.
C'est le shortboard. Ouais.
Shortboard avec qui est en double concave, quoi. Concave, double concave, voilà. C'est
un peu plus classique.
Oui, c'est shortboard. Il y a du caractère dedans aussi. Après, je joue plus ou moins en mettant plus ou moins de profondeur, en ayant plus ou moins de mouvement dans les profondeurs de concave. Je joue suivant les personnes, les niveaux de surf, sur des légères adaptations sur certaines courbes, telles que je t'ai montré. C'est des petits trucs. Lui, je vais lui mettre ça parce que lui, il en voit bien comme ça. Lui, il a du rebond. Je vais lui en mettre un peu plus. Il va apprécier dans son surf pour celle-là. Donc, j'ajoute des petits paramètres. Et quand tu leur adaptes, quand tu adaptes bien au mec, là, t'es. Les gonzes, quand ils sont bourrés, ils viennent te faire une bise, quoi. Mais il faut qu'ils soient bourrés en général. En général, c'est quand ils sont bourrés qu'ils viennent te faire la bise. À froid, ils le font pas trop, quoi. Non, mais c'est sympa,
cool.
Quoi.
C'est cool. Ouais, c'est
quand je rencontre des mecs, ils me disent putain, elle est bonne à bord, quand même. Tu vois, ça fait plaisir. Parce que t'y mets de ta personne, toi.
Ouais.
C'est ouais, ça. C'est-à-dire que moi, j'y mets mon esprit, j'y mets une vision telle que j'ai. Et j'essaye de traduire au maximum la vision que j'ai de comment je ressens les choses. Tu vois, je m'en branle pas, quoi. J'essaye vraiment de faire un truc. Donc, quand t'as des bons retours, t'es là, super. T'es content. Quand t'as des mauvais retours, c'est directement, bon, alors, qu'est-ce qui va pas? Comment je peux faire? Bon, là, il y a ça, ça, ça. Bon, là, hop. Et des fois, c'est arrivé, Guillaume, il y a une planche. J'avais un Sharky modèle, il m'a demandé de mettre un peu de largeur, un peu d'épaisseur. Ouh, putain, déjà, c'est une planche qui
le
demande.
Sharky,
qui... Ouais, c'est un shortboard avec swello. Celui que okay. le blanc, là, qu'on a vu. Donc, ça, c'est une planche, bon, faut surfer, quoi, quand même. Hein. Et puis, tu peux te la prendre dans les pieds, quoi. Mais elle a du gaz, mais elle tourne, tout, mais il faut de l'engagement.
C'est pas pour n'importe qui, quoi.
Ouais, il faut engager dans son surf, quoi. Faut pas être. Faut quand même bien savoir surfer, quoi. Mais c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Bon, alors j'ai le mec, tu fais ça, ok, il me demande de gonfler. C'était pas trop pour lui, tu vois, et le truc, il se la prenait dans les pieds, c'était dur pour lui. Puis il y a des moments, il était là, quand il était au planning à Donf, t'es au planning, t'es à Donf, t'es perpendiculaire à la planche, elle emmagasine un maximum de puissance sous cette-là, parce qu'elle est faite pour emmagasiner cette puissance, mais après, il faut la mettre sur l'oreille, et sur l'oreille, après, si tu pousses bien, boum, tu vas la renvoyer. Mais si tu fais semblant d'y aller sur l'oreille, commence à mordre, et te dit non, ça va pas là, quoi. Tout boum, il y a trop de force, donc il faut y aller, quoi. Quand il faut mettre l'impact, la pousser, à un moment donné, il faut la mettre sur ce planche-là. Même si elle n'est pas longue, mais à un moment donné, il faut déclencher quelque chose. Il faut bien le déclencher dans le tempo. Si tu déclenches bien dans le tempo parce que tu as l'intensité du mouvement pour le faire, ah ouais, tu peux la surfer, la board. Tu vois, c'est.
Il y avait le rocket fish aussi que tu m'as montré à l'atelier.
Oui. Alors, ça, c'est un classique, ça.
Ouais.
Un classique revisité, mais c'est un classique. Mon idée, c'est de faire un pur classique. Mais un classique qui marche, quoi. Pas un classique de gueule, hein. Un classique qui envoie la purée. Mais dans l'essence même de ce style-là.
Okay.
J'essaye d'être dans la pureté de l'esprit et du mouvement. Et c'est génial. C'est des planches qui sont absolument géniales. Bien menées. Tu peux tirer hyper long. Tu peux faire des bottoms en ayant des bottoms couchés dans la vague. C'est ça. Si ça s'utilise avec le bottom couché, il faut qu'à 6 inches de l'avant, l'eau, elle commence à rentrer sur le rail, toi. C'est fait pour ça. Si tu rentres à 12 inches, c'est déjà bien. Si tu rentres à 18 inches, tu sais pas surfer la planche. C'est-à-dire tu la surfes plein plomb, tant pis, ça le fait. Hein.
Oui.
Ah, ça va vite, tout, mais t'as pas été encore
pas
dans les
sens. Le potentiel.
Non, t'as pas été dans le potentiel. Il faut faire pénétrer l'eau le plus loin possible sur le nose. Et là, plus tu rentres là-dedans, mais plus la planche, elle est folle, quoi. Elle sort de la pénétration de l'eau, elle rebondit sur la vague. Bim! Et là, tu drives sur le pied arrière, ça avait des lignes tendues. Bim! Tu peux avoir un drive long, quoi. Après, c'est des planches qui sont. Pour planter le tail dans le creux, c'est quand même à pleine vitesse, c'est quand même du sport. Quoi. Là, il faut être préparé. Hein. Ça y va pas tout seul, il faut y être. Mais si tu mets le buste, l'engagement, le pied, t'es pas obligé d'aller te mettre complètement le creux. Elle t'offre aussi la possibilité d'aller plus loin devant. Elle t'offre cette possibilité. Mais si tu veux l'attaquer dans le creux, elle peut y aller, mais il faut vraiment. Faut pas se louper, quoi. Hein. C'est, faut le, faut pousser quoi. Parce qu'elle est pas, elle est pas, elle est pas plomb-plomb. Si nos planches avaient des tensions à un moment donné, donc elles ces tensions, elles te donnent de l'énergie, mais à un moment donné, elles vont te la restituer dans des endroits aussi où c'est tendu. Donc, il faut savoir que c'est là aussi, quoi. Alors, il faut amener les choses que quand tu déplaces tes transferts, quand tu fais des transferts de CG, de grande, de centre de gravité de ta poussée, que tu le recules derrière, tu vas utiliser d'autres courbes. Donc, en utilisant ces autres courbes, tu peux leur donner des courbes qui sont moins fonctionnelles sur les appuis du bas. Tu peux leur donner une, tu peux commencer à donner ces courbes dans des fonctions hautes dans la vague, tu vois. Mais c'est quand même une planche, c'est-à-dire que si tu dois aller sur l'arrière, il faut vraiment aller sur l'arrière, quoi. Parce que c'est derrière qu'elle va te permettre à ce moment-là de taper le creux. Il faut y aller d'une façon ferme. Donc il faut savoir placer son pied. C'est
pas de limite. C'est,
ben les vieux, mais tu regardes le surf qu'il y avait autrefois, la vitesse qu'ils avaient dans le surf, tu vois. Les mecs, ils drivaient en speed turn, quoi. C'était du speed turn en bas, speed turn en haut, quoi. C'est du flying surfing, c'est magnifique. Ah, c'est quoi, qu'est-ce que tu préfères voir un mec? Tu connais rien au surf, tu vois un mec qui fait un long bottom, tu vois un geyser d'eau derrière, le mec il remonte, il te fait quasiment la même chose en haut de vague, il monte sur la crête, il te signe la vague sur 4-5 mètres en haut, pleine vitesse avec une gerbe, il replonge dans la vague, c'est juste sur la commissure comme ça du lip, c'est magnifique comme surf. C'est beau,
ouais, c'est
tu vois? Si en plus tu as une section creuse, le mec il descend en bas et là, yak, il vient se recaler, chac, il met un appui milieu de vague, tu sais, milieu bas, il met un appui, rac, il se recale dans le creux et là, le temps qu'il remette le truc, il se met le barrel dessus et là il drive avec une planche, là, pap, elle y va aussi la planche, tu vois. Elle y va aussi. Mais elle aime ça.
C'est pas juste pour surfer des vagues de 80 cm.
Ah non, tu peux faire du barrel. Hein. Moi, quand tu prends mes fiches, les mecs te disent, putain, ils sont surpris. 2 mètres, et tient le croc, la planche. C'est bonnard. T'as un fiche qui travaille dans 60 cm, qui glisse, qui tourne, tu t'amuses, tu prends de la vitesse, tu flottes, tu vois, il y a du rebond, tout. Et en même temps, waouh, tu te fais un gros 1m50, les mecs, ils ont la banane avec. Hein. Ils savent tous le surfer à 1m50. Et t'en as certains, bam, 2 mètres, ils ont la super banane. Hein. Bah attends, t'as une planche courte qui envoie la purée, tu sais la driver dans du 2 mètres, c'est jouissif. Hein, c'est du full bonheur. Oh putain, je m'emballe. Mais le,
c'est bien, j'adore.
Mais le truc, c'est... Ouais, je... Bref, c'est une vieille planche, on disait. Donc je suis resté sur la pure vieille planche.
L'essence
et,
même... Pas
et l'essence quoi. Même qui était bonne il y a de ça, 30, ouais, il y a de ça 20 ans...
Ça marche toujours.
Elle marche tout le temps. Quand t'as une bonne board... T'as une bonne board, quoi. Mais il faut rester dans l'idée du truc, tu vois. Il faut que ça se drive tel que le truc a été conceptualisé, parce que le concept est carrément top. On n'a rien inventé. T'as presque tout le monde qui a inventé tout, déjà par bout, par bride, tu vois, et ça se combine. Tu vois.
Un peu de longboard.
Oui. Mais oui. De plus en plus, tu vois. J'en ai toujours fait des longboards, tu vois.
Ouais.
J'en ai toujours fait, toi.
Surf aussi.
Ouais, ça m'arrive un peu. Alors, je suis pas le champion. J'ai jamais su. J'ai passé 20 ans à faire du longboard, à surfer ça comme un shortboard, tu vois. C'est un autre sport, quoi. Ça demande en fin de compte une certaine technique, une certaine souplesse, et de pas s'emballer mentalement et de maîtriser la chose. C'est quand même un truc, savoir marcher sur une planche, bien se déplacer, sans donner des à-coups à la planche, et le faire d'une façon opportune, ça demande une certaine expérience, une certaine vision. Il faut l'acquérir. J'ai trois familles de longboard, quoi. Longboard petite vague, j'ai trois familles longboard, quoi. Il y a la famille qui est hot dogging, c'est le mec qui veut mettre des rollers en longboard, qui sort du shortboard, qui veut surfer ça, ouais, ça, je connais, j'en ai fait. J'en ai fait plein, je sais comment ça marche, quoi. Je sais les faire. Et après, t'as le ce que j'ai commencé à faire quelques années, c'est aller vers ces longboards single old school.
Nose rider.
Voilà, alors ça surfe différemment, mais ça déglisse, c'est super intéressante aussi. C'est différent. Alors après, c'est des planches en plus qui te permettent de bien marcher quand tu sais l'utiliser, c'est fin. Hein. Tu peux avoir un beau surf, toi. Et tu peut avoir de très très bonnes planches, qui peut avoir des très belles relances dans les manœuvres. C'est-à-dire que si tu l'utilises, tu peux te retrouver sur l'arrière et faire un arquer un surf sur l'arrière, sur une face de vague pour venir te recaler. T'es le bon nose rider, ben, t'es pas obligé de faire un stall, quoi. Si tu es bien le surfer, tu peux le travailler en arc. Tu peux faire un carve pour venir te replacer. C'est très intéressant à faire. Après, t'as des mecs qui vont les carver serrés avec un peu en stall, en enfonçant un peu, c'est plus facile. Mais tu peux lui donner de l'ampleur aussi. Les meilleurs donneront de l'ampleur. Ça sera plus beau d'ailleurs. Et là, tu les mecs, pff, ils remontent et là, ils se calent. Ils vont marcher dans la descente, se caler dans le creux, tu serres un peu ta courbe, tu te cales dessus, et là tu déplaces dans ton recal, quand tu te recales, quand tu reprends la puissance de la vague, tu te dans le cul de la planche, tu te déplaces sur l'avant, la puissance de la vague va te garder le tail dans la. Capter dans l'alimination, dans le mouvement, donc la board elle va pas s'en aller, elle est sucée par l'eau. Donc elle peut pas monter. Et il lui dit reste là, elle est prise dans le flux là, et là boum, elle vient tirer, et là tu te balances sur l'avant, les mecs ils vont te mettre sur le nez, tenir quand tu les regardes, les mecs ils ont les 10 orteils qui dépassent de la planche, c'est quelque chose, tu vois quoi, t'as des visions, t'as l'impression que le mec il est suspendu en porte-à-faux sur une planche.
Ouais, c'est ça,
c'est ce qui se passe. À un moment donné ils sont en porte-à-faux, donc t'as tout un truc, tu vois. C'est de l'apesanteur, mais en même temps, c'est du full speed, c'est de la puissance. Parce que tu as toute la planche derrière qui te maintient ça. Donc, il faut que ce soit maintenu. Donc, tu as du poids dans le vide. Tu surfes la planche, tu touches même pas l'eau. Et la planche, elle reste captée au-dessus de l'eau, quoi. Et là où tu as ton centre de gravité, elle n'y est pas, quoi. Moi, j'avoue que là, je regarde ça, je suis là, waouh. Les mecs sont bons, quoi.
C'est clair.
Moi, j'ai dû mettre à un moment donné un jour un orteil, quoi. Non, qui sortait de la planche, mais c'est le maximum que j'ai fait. C'est pas la même, quoi.
Il y a d'autres modèles dont on n'a pas parlé, là, que tu veux.
Ouais, après j'ai des.
Présenter un peu.
Après j'ai le classique qui est. Ouais, alors dans la famille classique j'en ai deux. J'en ai un qui est un peu façon pig. Alors j'ai une sorte de pig que j'appelle El Gourou, mais j'en fais très peu de ça. Et après j'en ai une catégorie, c'est mythe classique. Un peu entre le pig et le classique, qui est très sympa. Je tourne beaucoup autour de ça parce qu'il a un petit côté outdogging. Il est très sympa comme longboard. Les mecs qui l'ont essayé, ils se disent ah, putain, mais tu pompes, il accélère. Je dis bah ouais, 9 pieds 2, tu sens une accélération quand tu pompes en étant, tu sais, placé un peu arrière comme ça. C'est sympa, quoi. Tu peux l'utiliser un petit peu comme un shortboard, tu vois. C'est un classique, quoi. C'est un vrai longboard classique, mais il peut le faire. Tu drives sur le nose, tu as le rail qui pénètre bien, tu vois, l'eau, elle vient bien pénétrer le rail interne. L'eau, elle monte bien sur la planche, quoi, elle ne la refuse pas, elle vient monter sur la planche. Sans offrir d'opposition, elle monte graduellement, tu vois, elle s'intègre finement à l'avant, et elle monte sur le pont, sur longboard. C'est génial, parce qu'en fin de compte, tu captes l'ancrage dans la vague. Donc ça, c'est des trucs assez judicieux, quoi. Et après, après tu as des planches, tu peux même trouver du rebond sur l'avant, tu peux les surfer. Moi j'aime bien les planches comme ça, en ayant le pied avant à un pied de l'avant et l'autre entre, que je me positionne entre 1 et 3 pieds de l'avant, tu vois, c'est la partie nose, quoi, pour moi c'est ma partie avant. Des fois je vais m'approcher un peu plus, toi. Ben, c'est-à-dire je peux basiquement mettre mon centre de gravité soit sur un pied de l'avant ou soit sur trois pieds de l'arrière en jouant avec le buste, tu vois, en gros en me penchant un peu devant sans bouger le pied, et ou alors je bascule un peu derrière, et là des fois tu es dans la face de la vague et tu peux monter descendre, tu drives ta planche comme ça. Moi j'aime bien ces longboards là, je trouve que c'est intéressant.
On a fait le tour de tes modèles là, ou il y en a d'autres, bah, en dehors des longboards en général?
Ah, mais je sais faire les towing, les guns. J'ai beaucoup aimé faire des guns. À un moment donné, je shootais un peu de taille, donc j'aimais bien, quoi. Et puis j'avais quelques bons surfeurs qui raidaient mes guns aussi, j'étais content. Tu vois, c'est bien. Tu vois, il y a des mecs qui shootent Guettari, et qui vont dans du 4 mètres avec Guettari, sur une planche à moi, je suis content. C'est des belles planches aussi, quoi. C'est de la glisse, quoi. Tu laisses glisser, quoi. Ah, j'ai des modèles que j'adore, que j'ai fait une quinzaine de pipeliners, 10 pieds pipeliners, 3 lattes, un truc designé en 1966 par Dick Brewer sous label Bing à Hawaï. Il s'appelle le Icelandic Pipeliner. Ça, j'ai commencé à faire mes premiers en 2000. Mais c'est une pure board. Ça fait des guns. Un guitariste, c'est une arme phénoménale. C'est une super board, quoi. On est quelques mecs qui en ont à moi de ces planches-là, quoi. Et c'est un truc... j'ai rien inventé. Et c'est le plus beau design qu'il ait jamais fait. C'est le plus beau design de planche qui ait jamais été designé sur Hawaï. C'est le vrai papa des guns, quoi.
Ça m'amène à la question que je voulais te poser. Je t'avais dit, est-ce que tu as un shaper iconique et une planche iconique? Et finalement, c'est peut-être celle-là, quoi. Le pipeliner de... Tu parlais d'Alan Byrne tout à l'heure, il y a des shapers...
Il est mort, malheureusement.
Ouais, mais il y a des shapers comme ça qui sont vraiment... où tu t'es dit,
je vais faire comme eux, quoi. T'as les mecs, ils ont eu des vies phénoménales, quoi. T'as un mec comme Alan Byrne, d'ailleurs on a la même formation, quoi, aéronautique, c'est assez rigolo.
Ah oui.
Il aurait dû être pipe master, ce gars. Mais bon, le mec c'était un super bon surfeur, quoi. C'est l'équivalent d'un de nos champions du monde de l'école, de l'époque. Il n'a pas été, mais pour certains il aurait dû être, quoi. Et le mec, il shapait, il y avait une... C'était des planches ultra structurées. Je m'étais aperçu que c'était super bien structuré, ces boards.
Ouais.
Souvent, les mecs structurent des planches en trois parties. Le milieu, le nose et le tail. Ça, c'est le plus classique, on va dire. Les plus basiques font l'avant et l'arrière. C'est très logique, ça marche bien. Il faut tenir compte dans une géométrie... de la planche en trois parties, tu vois, et t'as cet équilibre qui se fait avant, arrière, mais c'est comme si à un moment donné tu dessinais un rectangle dans la planche et t'as une base qui est là, quoi. Et après on a les il y a d'autres designs qui sont en fin de compte dans une souplesse. Je me perds dans des considérations phénoménales. Donc en fin de compte, si on revient en arrière, l'équilibre trouvé par la courbure pour redonner ses portants, ce côté trois parties, ce qu'on ressent dans le surf moderne, j'appuie devant, là j'ai une certaine portance, j'ai du mal à le dire. J'arrive pas vraiment à trouver les mots.
Mais ça, c'est quelque
c'est
chose
terrible.
Que
c'est un truc que je ressens.
Chez Alan Byrne, en particulier.
Alors lui, t'avais les planches, elles étaient super bien équilibrées comme ça, avec ses tiers avant, ses tiers arrière, tu vois, et le milieu de la planche, tu sentais que c'était structuré. En fin de compte, tu sentais que la planche, c'était juste des courbes qui étaient posées, comme si c'était une monocourbe qui était posée judiciairement. Il arrivait en même temps à voir, tu sentais ces surfaces de référence qui doivent être mises là où il faut. Le rectangle optimal qui se met là, qui se centre sous. Et ça tourne tout autour de ça. Mais tu as l'impression que les courbures sont naturelles. Alan Byrne, c'était phénoménal, ce truc-là qu'il avait. Moi, je trouvais que c'était magique, quoi. C'était magique. Et Rosson, il a aussi. Il a ce truc-là. Et tu le ressens visuel. Et pourtant, quand tu contrôles du Rosson, tu t'aperçois que les courbes, c'est une trois parties. Mais il amène aussi d'une façon, c'est souple, c'est doux. T'as cette impression de cercle, de monocourbe qui est là, qui est... Tu vois quelques accélérations, mais elles sont douces, elles sont menées. Je trouve ça magnifique. Rosson, si, ça reste encore le maître. Ça a toujours été beau. C'est pensé, c'est mené, c'est structuré, c'est limpide. Il y a de l'esthétique, c'est beau, quoi. Et puis moi, j'avais une adoration pour Alan Byrne, quoi. Il avait tout compris dans la mécanique, dans les trucs. Tout était... limpide, structuré, rien n'était au hasard. C'était tout avait une raison, quoi. Ça m'a vachement inspiré, quoi. Toi, quand tu commences à mettre des règles, des machins, à mesurer des trucs, à mettre des diagonales, des transversales, tu regardes tout comment c'est venu, tu trouves des logiques, t'es là, waouh. Il y avait vraiment quelque chose. Le mec, il était hyper bon. Ça a quand même été un pilote de chasse aussi. Et il me semble que ça a été un mec sélectionné aussi pour être NASA cosmonaute, quoi. Il a jamais fait et il a quitté l'armée. Il est parti shaper en Australie. C'était un néo-zélandais. Il est devenu shaper en Australie.
C'est
mec, c'est beau, quoi. Il faisait des planches qui étaient waouh. Moi, Alan Byrne, c'est Pour moi, c'était le summum australien quand les Australiens étaient au summum.
Ouais, c'est ça.
Alors, il n'y avait pas que Landburn, hein, le chef australien, il y avait du monde. Mais Shaper central australien, pour moi. Hein. Ouais. Ok, il y a McCoy. Il y a quelque chose qui est phénoménal aussi. C'est différent comme planche, mais c'est très bon aussi. Il y a McCoy, et on le sait qu'il y a McCoy. Mais Alan Byrne, incroyable dans les idées, les esprits, tout. Il avait tout compris sur une planche. Mais absolument tout. Hein. Le mec, il savait. Puis c'était ultra structuré. Faut les mesurer, quoi, dans le détail. Tout est bon, quoi. Voilà, moi j'aimais bien, quoi. Ils ont c'est des mecs, ouais, je crois que c'est les deux mecs. Après, Brewer, il a quand même fait le Pipeliner en 1966. Je pense que là, il y a quelque chose de phénoménal. Il a fait des super guns. Il a toujours été à la pointe sur les guns. Ouais, Brewer, ouais, il a eu une époque très très forte. Et après, tu as eu d'autres mecs qui sont arrivés après, qui ont eu des époques très très fortes. Et Rosson est toujours en vie, hein. Oui. Il chape toujours. Hein. D'après ce que je vois, il fait toujours de bonnes planches. Hein. C'est un des mecs qui sait tout te faire. Il sait tout faire, quoi. Avec son esprit à lui, mais il sait tout faire. Et le bordel, t'as rien à redire, quoi. C'est...
Le maître.
Tu peux pas lui dire que c'est pas bon. Impossible. Mais il peut faire plein de trucs. Je pense que les gens n'ont pas conscience de tout ce que peut faire... Des Rosson, j'en ai surfé, j'ai été propriétaire de Rosson, j'ai surfé des Rosson, j'ai des copains qui ont eu des Rosson. Putain, on a surfé des Rosson, on était amoureux, hein, on adorait. Hein. C'était magnifique, quoi. T'avais une board qui drivait dans le creux, qui marchait à donf sur le plat, qui envoyait des wacks, qui pouvait faire des bons cutbacks, comme disait des figures serrées, des figures amples. Pff, bonne board, hein.
T'en commandes encore des planches à d'autres shapers ?
Non.
Tu les fais toutes ?
Ouais, je me les fais, quoi.
Ouais, bah oui.
Mais
T'as envie de tester tes planches, quoi.
Ça me déplairait pas d'avoir une Rosson, là. Ouais. Je pourrais me commander une Rosson, ouais. J'aimerais bien, tu vois, si un jour mon fils va sur le North Shore, tu prends une planche à moi, t'en commandes une à Rosson, quoi. Si un jour il fait ça, je lui dis c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Avant que je sois trop vieux et qu'il soit trop vieux, que je puisse surfer la planche aussi.
C'est ça, il va arrêter un moment.
Ben ouais, il va arrêter, quoi. Avant, il avait tous les pros qui lui prenaient les planches.
Ouais.
C'est plus tellement la tradition du moment.
Ouais, voilà, ça.
Mais avant, les mecs, un pro, il arrivait sur le North Shore, il allait surfer le North Shore, le mec, il spawnait une planche hawaïenne de mon shaper hawaïen, quoi. Et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui en prenaient un Rosson aussi. Et beaucoup, je pense qu'il en faisait plus que les autres. T'avais Gary qui lui prenait des planches, Tom Carroll qui lui prenait des planches, tu vois. Tous lui prenaient des planches. T'avais deux tiers des Australiens qui repartaient avec une Rosson dans l'hiver. Et le mec, lui, il sponsorisait personne, tu vois la différence ? Payez pas les mecs, ne leur donnez pas les boards. Les mecs qui venaient, c'était pro, ils lui achetaient les boards. Parce que c'était bon. Ouais, les voilà. Ouais, oui, non, il faudrait peut-être que je le fasse un jour. T'as d'autres questions ou pas ?
Ben non, je crois qu'on a bien. On a bien poncé l'interview.
Et voilà pour ce 4e épisode consacré à Toy Surfboards. Merci à Didier d'avoir pris le temps de participer au podcast et d'avoir partagé toutes ses histoires et précieux enseignements. Si vous voulez en savoir plus, écoutez la deuxième partie de cet épisode. On y parle de mécanique des fluides, de planches, de leur rocker, de leur adaptation à chacun. Et on y reparle également du gun shapé à Hawaï, de son passage chez Arakawa, du surf de gros, de towin, bref, de plein de sujets passionnants. Rendez-vous sur le site de Didier, toysurfboards.com, ou sur son Instagram, toysurfboards-didier.damestoy, pour découvrir le reste de son travail et suivre son actualité. Vous retrouverez tous ces liens sur notre site et compte Instagram. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à partager et à vous abonner au podcast. Vous pouvez également suivre le compte Instagram shape.ology pour découvrir le reportage photo de l'épisode et aussi pour être au courant des prochaines sorties. Enfin, rendez-vous sur le site shapeology.fr où vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes, de nos reportages, mais aussi un lexique, un annuaire des shapers français et plein d'autres contenus à venir. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.